un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
La séparation des églises et de l'État, ces sujets d'actualité avec la commémoration de la loi du 9 décembre 1905, une loi publiée donc il y a 100 ans. Et puis la question nous intéresse particulièrement car elle trouve écho dans la société d'aujourd'hui. La laïcité française est-elle un modèle d'équilibre? L'Académie des sciences morales et politiques a consacré un troisième colloque au centenaire de la loi 1905 avec pour thème « La laïcité française dans son contexte international, singularité ou modèle ». Le colloque a eu lieu du 19 au 21 septembre 2005 dans les locaux de l'Institut de France avec pas moins de 27 intervenants. Nous vous proposons donc une sélection de ces interventions que nous avons tenté d'organiser avec logique et intérêt. Pour commencer, voici l'allocution de Blandine Chélini-Pont sur le rayonnement ou non du concept français de laïcité dans le monde. La laïcité à la française est-elle un concept universel, comme l'avaient voulu les penseurs du siècle des Lumières? Et nous verrons que Mme Chélini-Pont déconstruit un mythe largement répandu en France, celui selon lequel la laïcité française serait une des meilleures au monde, donc la plus acceptable et donc la plus exportable. Mme Chélini-Pont est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, où elle est plus spécifiquement responsable du master Laïcité et droit des cultes. Nous écoutons sa communication prononcée le 19 septembre au Palais de l'Institut, dans la grande salle des séances.
J'ai souhaité et proposé ce sujet à l'organisateur de ce colloque parce que j'ai l'intime conviction que la laïcité, et je ne suis pas la seule d'ailleurs à le penser, fait partie de notre projection internationale et que cette question est essentielle pour l'avenir de cette même projection internationale et que jusqu'ici, peu d'efforts ont été faits ou en tous les cas de manière peu concluante pour en prendre conscience ou pour la promouvoir et la présenter sous ses meilleurs atours. Tandis que les Français considèrent à plus de 80%, d'après le sondage BVA de décembre 2003 pour le CEVIPOF, quelle est notre valeur fondamentale. Donc je pars du constat qu'il y a une grande distorsion entre l'image plutôt positive qui se dégage de nos sondages d'opinion sur les Français et la laïcité et les idées vraies ou fausses que celle-ci sous-entend et ce que la presse étrangère et l'étranger en général en retient. L'image plutôt positive qui se dégage donc sur la séparation, la privatisation du croire, que la France, que les Français ont de leur laïcité, s'accompagne aussi de l'idée qu'ils ont de la faible importance des religions et du fait religieux dans leur société, de la visibilité des religions. Il y a un sondage de juin 2005 du Monde des religions qui montre que les Français pensent à plus de 70% que la religion dans le monde a pris de l'importance, mais qu'elle a pris trop d'importance, et plus de 60% que c'est plutôt dangereux, et que, enfin, plus de 60% pensent qu'en tout cas chez eux et dans leur vie quotidienne, heureusement, la religion n'a pas tant d'importance que ça. Donc l'image d'une France qui est plutôt d'appartenance catholique, avec un sentiment d'appartenance à cette religion qui est évaluée à peu près de 60%, un sentiment d'appartenance très dilué dans un fort dosage de sécularisation, donc une identité catholaïque qui semble être solidement arrimée à son image de pays un peu libéré de la religion et en même temps tolérant et respectueux des convictions des gens. Ça n'est pas exactement l'image, par exemple, que la presse étrangère, quand on l'étudie un peu de près au moment de nos grandes affaires, puisque effectivement l'histoire de France est une histoire d'affaires, rapporte. Donc elle serait beaucoup plus encline à insister sur l'antisémitisme en France, sur l'anti-islamisme, ou enfin plutôt le fait que la France est un pays un peu anti-musulman, une France en tout cas anti-minorité visible, anti-secte, et de manière un peu grossière et caricaturale, une France plutôt rigide et intolérante, loin de son idéal supposé. En faisant un tour d'horizon de la presse étrangère, avant puis au lendemain de l'affaire du voile, qui est la plus récente de nos affaires, les articles à peu près aimables sur la France et son système de traitement du religieux, excipé par la loi du 14 mars 2004, on les trouve plutôt dans la presse russe, la presse chinoise, peut-être la presse turque et tunisienne. La presse anglo-saxonne et américaine en particulier fut en général très critique, comme elle le fut sur le réveil antisémite qui suivit la deuxième intifada, et qui avait grossi au point d'atteindre en 2002 à peu près 400 actes délictueux, comme elle le fut à la fin de la décennie 90, sur la manière musclée dont l'État français, avec l'assentiment de toute la population, je reprends mes petits sondages, le sondage 2003 BVA montre que 92% des Français sont toujours très favorables à la lutte contre les sectes, donc c'est vraiment quelque chose d'acquis. Donc l'assentiment de cette population, la manière dont l'État français a contrôlé le mouvement ou les dérapages des mouvements minoritaires, donc avec une attention particulière dans cette presse sur la liste parlementaire du rapport Guyard 1996 sur la création de la MILS, donc avec des mots très durs vis-à-vis de cette politique dans lequel le terme de chasse aux sorcières ressort souvent. Alors j'ai choisi pour illustrer de manière plus agréable l'état d'esprit plutôt critique de l'opinion étrangère sur les modalités ou sur la vitalité de notre laïcité, un article de la revue Arche, qui est une revue juive française, de janvier-février 2004, qui donne le témoignage plutôt humoristique d'un professeur d'une université israélienne qui cherchait à expliquer la laïcité à la française à ses étudiants de Bar-Ilan. C'est une université qui accueille des étudiants, bien sûr, juifs, pratiquants, non pratiquants, des étudiants musulmans, palestiniens et chrétiens aussi. Et c'est plutôt une université religieuse où les filles ont fréquemment un uniforme, jupe longue, bras et tête couverts. Et les étudiants qui suivent son cours facultatif sur la société française contemporaine l'assaillent de questions sur l'antisémitisme virulent de notre pays. Donc c'est un témoignage de 2004. Et ce professeur essaie d'expliquer à ses étudiants et il présente ses étudiantes et étudiants, donc deux étudiantes musulmanes voilées, actives dans le mouvement islamique en Galilée, une étudiante juive très religieuse, un hassid plutôt âgé, une jeune fille dénudée, dit-il, avec un gros diamant au nombril, trois étudiants en kippat et une chrétienne de Nazareth avec une croix ostensible. Et donc, il essaie d'expliquer pourquoi les Français sont gênés par les signes extérieurs de religiosité. Alors, l'article est assez drôle et bien écrit, mais c'est surtout une phrase de cet article qui a retenu mon attention. Un étudiant l'interrompt à un moment donné, l'interpelle en lui disant « Mais pourquoi, monsieur, les Français sont-ils contre la démocratie ?» Donc, c'est une remarque intéressante sur laquelle nous pouvons discuter. La démocratie, ainsi conçue, c'est la liberté de vivre visiblement dans sa religion. Alors, à côté de la presse, voilà, des changements de fond sur lesquels nous pourrons revenir. À côté de la presse, vous avez un travail de mobilisation depuis plus de 10 ans maintenant d'ONG puissantes qui ont milité et fait beaucoup de bruit face à la lutte dite anti-secte française, puis face à la loi sur le voile. Alors, quelles sont ces ONG ? Vraiment une kyrielle d'ONG confessionnelles ou alors de sensibilités confessantes militant pour la liberté religieuse, des ONG traditionnellement d'origine anglo-saxonne, par exemple IRLA, qui est une ONG adventiste, mais il y en a d'européennes, comme la Oslo Coalition, qui a dans son comité d'honneur le patriarche Bartholoméos et qui prend de temps en temps à témoin ou à charge le gouvernement français sur sa politique. Alors, les Français sont à la fois peu au courant et il me semble indifférent à cette mobilisation. Ils peuvent même, comme le titrait Le Monde diplomatique en 2001 dans un article assez retentissant, considérer que ces associations dépendent et défendent les sectes, qu'elles sont anglo-saxonnes et que ces sectes ainsi défendues par ces associations sont, selon le titre de cet article, le cheval de Troie de l'Amérique. Donc cette affirmation a du vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. L'Amérique a effectivement une opinion sur nos méthodes laïques. Elle écoute ces associations dans le cadre d'un système propre de lobbying direct et indirect auprès du Congrès et du gouvernement américain et elle les prend très au sérieux. Donc le troisième niveau de critique de la laïcité française, en quelque sorte cette image de la laïcité française est contrée sur le terrain des libertés par les États-Unis qui défendent ouvertement et diplomatiquement un autre concept que la laïcité inclut, notre laïcité française inclut bien sûr, mais j'allais dire au tour extérieur, de manière un peu en circonférence, la liberté religieuse, défendue donc sur les fondements de leur premier amendement. Il y a depuis 1998 une loi qui a été votée par le Congrès américain sur la liberté religieuse dans le monde, avec la création de deux institutions, un office au sein du département d'État qui s'intéresse directement aux questions de liberté religieuse dans le monde et une commission mixte Congrès-Sénat. Ces deux institutions qui sont financées par l'État américain produisent chaque année des rapports qui ont pu épingler la situation française année après année avec de moins en moins de virulence quand on les lit. Le rapport de 1999 est assez terrible sur la politique antisecte, politique publique antisecte française, mais le rapport de 2004, le rapport de 2005 est en cours d'élaboration puisque ces rapports sortent en général au mois d'octobre. Outre ces rapports, la loi sur la liberté religieuse dans le monde de 1998 oblige les ambassadeurs à inclure dans leur charge un devoir de relation sur les questions religieuses dans chaque pays où ils sont donc ils représentent leur pays, leur État, un système de surveillance des questions de liberté religieuse, d'état de la liberté religieuse dans les pays en question, avec des discussions, des hearings et une série de modalités qui leur permettent de se faire une idée un peu plus précise de la situation. Les États-Unis ne sont pas tout seuls avec leurs diplomates, mais ces derniers collaborent à récolter des informations, prendre des avis, particulièrement auprès de trois catégories de personnes, les victimes réelles ou supposées d'actes d'intolérance, les associations de défense de la liberté religieuse ou, en général, les institutions et les acteurs, les responsables religieux des pays en question, et les professionnels du droit, universitaires ou avocats. Et ainsi, une vaste toile s'est tissée depuis 10 ans qui, en collaboration ou parallèlement à l'action des États-Unis, a fait de la liberté religieuse une question centrale, particulièrement pour les grandes ONG, qui a relancé la recherche et les débats académiques sur les rapports entre religion, politique et droit. Un intérêt extrême des juristes américains qui travaillent sur ces sujets vis-à-vis de la laïcité française, un intérêt technique pour comprendre les mécanismes limitatifs de cette laïcité. Et depuis 3-4 ans, j'ai rencontré beaucoup d'universitaires étrangers, particulièrement américains, qui débattent sur la situation juridique française, à la fois bien connue et donc assez critiquée. L'inverse, je dois dire, est assez rare. Madame le professeur Elisabeth Zoller, qui doit intervenir et qui vient de sortir un collectif sur la laïcité américaine, puisque c'est le terme qu'elle utilise pour désigner le... Et elle commente et elle explique très 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 bien pourquoi elle utilise ce terme. Donc, qui a travaillé sur le système juridique américain vis-à-vis de la religion, explique que les Français s'intéressent peu finalement à l'organisation juridique de la laïcité américaine, je reprends son terme, qui est par ailleurs passionnante. Et cela dit, peut-être qu'en France aussi, finalement, peu de juristes sont spécialistes de ces questions, qui restent un peu, dans un consensus de discrétion. Elle n'est pas, la laïcité n'est pas un enseignement juridique. On a des textes, mais personne ou peu de gens les connaissent. Un grand nombre de blocages sont repérables. En tout cas, souvent des textes qui existent ne sont pas appliqués par peur ou par ignorance. On pourra y revenir dessus. Et c'est particulièrement sur ces questions-là qu'à l'étranger, on pointera du doigt les dysfonctionnements de la laïcité française. Alors, pour en revenir aux ONG, aux grandes ONG dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ne sont pas donc des ONG confessionnelles ou d'appartenance confessionnelle, vous avez la Fédération des comités Helsinki ou une autre grosse association comme Human Rights Watch, pardon, pour lesquelles la liberté religieuse est devenue une liberté à défendre, et même Amnesty International s'y est mise. Enfin, les grandes instances internationales sont concernées par ce phénomène, et vous avez à l'ONU un rapporteur spécial sur la question de la liberté religieuse dans le monde, et ces rapports sont assez lus et connus. Et le dernier, d'octobre 2004, fait figurer la France sur une liste de 28 pays, à côté de la Chine et du Soudan, pour lesquels, ou à cause, enfin, vis-à-vis desquels, le rapport critique le fait que la liberté de conviction dans ces pays est mise en cause. Alors, pour le nouveau rapport de la nouvelle rapporteuse, qui est une indienne musulmane, elle est en voyage en France. Et aujourd'hui même, par exemple, elle est chez Amnesty International, entre autres, bien sûr. Et quelqu'un que j'y connais, qui doit la rencontrer pour lui remettre le rapport qu'elle a demandé à Amnesty sur la situation française, se montrait un peu déçue qu'elle ait insisté sur la situation des groupes minoritaires et la situation des musulmans. Et je reprends sa phrase. En gros, pour elle, la France, c'est les sectes et le voile. Alors que les Français considéreraient plutôt ces questions comme en cours de règlement. Alors, autre organisation à côté de l'ONU, l'OSCE. L'OSCE est une noble organisation que tout le monde connaît et qui a monté en 1998 un groupe permanent au sein de son office sur la protection des droits de l'homme. Donc un groupe permanent de veille sur le respect de la liberté religieuse. Et le professeur Jeremy Gunn va venir en parler justement mercredi matin. C'est l'occasion de le bombarder de questions, puisqu'il en est un acteur très important. Alors ce qui était intéressant, c'est que le groupe permanent fait évidemment des meetings très réguliers où invite un certain nombre d'universitaires et de responsables administratifs de différents pays, est doté d'un advisory panel qui est permanent, qui se réunit souvent et qui comporte sur la dizaine de membres, un petit peu moins peut-être, je ne les ai pas comptés, 3 Américains et, j'allais dire, aucun Français. C'est un scandale. Un scandale terrible. Donc, à l'OSCE, chaque année, un grand meeting a lieu sur la question, une question d'actualité autour de la liberté religieuse à Varsovie et à Vienne, et le prochain aura lieu fin octobre. La semaine dernière, un représentant de l'OSCE est venu à Paris interroger les acteurs de la scène laïque française et demander également aux musulmans comment ils se sentaient traités dans ce pays. Or, les activités de l'OSCE ont une réelle influence sur les pays qu'elle recouvre de son autorité, ou en tous les cas, qui participent à son existence. Alors, je voulais vous donner l'exemple de l'Ukraine ou celui de la Roumanie. En Roumanie, aujourd'hui, vous avez un nouveau projet de loi qui est en cours de rédaction sur la liberté de religion. Et ce projet de loi a été placé sous l'expertise du panel dont je vous parlais tout à l'heure, de l'OSCE. Et la personne qui est chargée de le présenter, qui est l'actuel ministre de la Justice roumaine, est une ancienne avocate des droits de l'homme qui connaît très en détail la situation des minorités en Roumanie. Elle est anglophone et c'est une femme absolument remarquable, enfin bien sûr, et tout à fait compétente, mais pour vous dire que les personnes vers qui elle s'est tournée pour rédiger ce projet de loi ne sont pas, j'allais dire, de culture française et ne participent pas à la culture laïque de notre pays, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'ancien Premier ministre de Roumanie, Monsieur Adrian Nastase, qui était francophone. Donc là, on sent bien aussi que dans la reconstruction européenne des anciens pays du bloc soviétique, les influences qui se jouent et en tous les cas les modalités d'organisation du religieux et des politiques sont plus, beaucoup plus qu'on pourrait le penser, touchées par l'influence et par les conseils. Par l'audit, en quelque sorte, des membres de l'OSCE. Donc on peut considérer que l'image mitigée de la France à l'étranger sur la question de la laïcité est encore, si je puis m'exprimer ainsi, un sale coup des Américains, qu'ils sont partout et qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils défendent leur mouvement missionnaire de la sorte, mais je pense que cette analyse est insuffisante ou un peu courte. On peut considérer aussi que nous n'avons pas grand monde à leur opposer, par manque d'argent, par manque de troupes, hein, c'est un peu une guerre intellectuelle aussi, ou en tous les cas, une réflexion, comme pour le reste, où chercheurs et recherches sont très développés aux États-Unis avec un intérêt très important autour de ces recherches, et en France, un consensus de discrétion peut-être autour d'un modèle qui se croirait abouti et qui n'intéresse pas beaucoup les chercheurs, en tout cas, enfin, qui n'est pas, la réflexion sur le fait qu'il peut continuer à évoluer semble un peu difficile. Enfin, je pense, et c'est une idée que je vous soumets, que l'absence d'intérêt ou la critique étrangère vis-à-vis de la laïcité, corroborée de la vigilance américaine vis-à-vis de la liberté religieuse, n'est pas qu'un effet supplémentaire de leur puissance. Elle peut être aussi un signe des temps et un signe, à mon avis, qu'il faudrait être un peu plus intéressé en France sur ce sujet, si nous avons encore quelques prétentions à l'universalisme. Nous avons changé d'époque et il faut le mesurer. La liberté religieuse est devenue depuis 10 ans un critère extrêmement pertinent de définition du vrai régime démocratique. En tous les cas, c'est la perception à partir de laquelle sera jugé un système légal et démocratique. C'est la perception à partir de laquelle elle sera jugée. Et de ce point de vue, la France est moins pertinente, paradoxalement, que les États-Unis, qui proposent au monde leur propre expérience constitutionnelle et qui proposent leur compatibilité avec les normes internationales de la Déclaration universelle des droits de l'homme et même de la Convention européenne, et donc qui ont en quelque sorte la légitimité d'une conciliation toujours en travail, mais qui est quand même, par rapport à d'autres espaces de ce monde, particulièrement réussi entre religion et démocratie. Alors la question reste ouverte. Tout ça, c'est aussi une question d'image. Une image, ça se travaille, hein, parce qu'après tout, notre laïcité a beaucoup de bons côtés. Et j'aimerais conclure en demandant si les Américains resteront les seuls à faire une telle proposition. Merci beaucoup.
C'était Blandine Chelley-Nippon, universitaire, docteur en droit et en histoire, responsable du master laïcité et droit des cultes à l'université d'Aix-en-Provence. Cette allocution a été donnée le 19 septembre 2005 lors d'un colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion du centenaire de la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Vous l'avez entendu, Blandine Chelley-Nippon a évoqué à plusieurs reprises la situation aux États-Unis et les différences de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, pour approfondir ce sujet, nous allons écouter Elisabeth Zoller, professeure à l'Université Paris II Panthéon-Assas et auteure, entre autres, d'un ouvrage sur la conception américaine de la laïcité, publié en mai 2005 aux éditions Dallot-Siré. Voici donc son analyse de la laïcité aux États-Unis, une conception, on va le voir, qui est très différente de celle qui prévaut en France, pas tant sur le fond que dans son application. On écoute Elisabeth Zoller sur la laïcité aux États-Unis.
La séparation des églises et de l'État est organisée par le premier amendement à la Constitution. Il ne faut pas s'étonner sur le numéro, hein, premier amendement. Ça ne veut pas dire que la séparation de l'Église et de l'État soit le premier des principes des États-Unis. Il se trouve tout simplement que quand Madison avait présenté son projet au Congrès en 1789, la question de la séparation des églises et de l'État venait en quatrième position dans son projet, et les trois premiers articles n'ayant pas été adoptés, eh bien, ce principe est devenu le premier. Donc, il ne faut pas en déduire du premier amendement surchargé de sens la position de ce texte dans le Bill of Rights. Le premier amendement, donc, dit en matière d'Église et d'État deux choses. Il dit que le Congrès ne fera aucune loi, n'est-ce pas, no law, n'est-ce pas, aucune loi concernant l'établissement d'une religion, c'est-à-dire c'est exactement l'inverse de l'acte d'établissement de l'Angleterre de 1701. Il n'y peut pas y avoir aux États-Unis d'église établie, donc il n'y a pas de religion d'État. Et deuxième principe, le Congrès ne fera aucune loi qui empêcherait le libre exercice d'une religion. Alors, les Américains appellent ces deux clauses du premier amendement la clause d'établissement ou de non-établissement, Establishment Clause, et la seconde, la clause de libre exercice, Free Exercise Clause. Alors, je disais que ces deux principes, on les retrouve exactement en France. Le principe de non-établissement, nous l'avons dans la loi de 1905, qui dit que la République ne reconnaît aucun culte. Et le principe de libre exercice, eh bien, c'est dans la Constitution de 1958, où il est dit que la République respecte toutes les croyances. Donc, vous le voyez, deux États avec donc deux républiques, très importantes, deux républiques, avec deux principes fondateurs en matière de séparation de l'Église et de l'État, qui sont exactement les mêmes. Et quand vous regardez les résultats des deux sociétés, eh bien, vous constatez des divergences absolument considérables. On pourrait même dire des divergences qui vont jusqu'à poser les deux républiques aux antipodes. Les États-Unis, notamment l'Amérique profonde, c'est-à-dire l'Amérique des États rouges, hein, les Red States, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les États qui votent démocrates, hein, le Midwest, par exemple, par opposition aux États bleus, les Blue States, qui votent, les États rouges qui votent républicains par opposition aux Blue States qui votent démocrates, eh bien, ces États rouges, ces États républicains sont intensément, profondément religieux. Un candidat à la présidence des États-Unis qui se déclarerait ouvertement athée n'a aucune chance d'être élu. Alors qu'en France, la religion des présidentiables n'apparaît pas dans le débat comme un élément véritablement pertinent. Mais plus grave, les deux pays se sont affrontés sur certaines questions touchant au rapport entre la religion et l'État. Alors, deux chapitres essentiels d'opposition, d'abord les sectes, et puis ensuite, bien sûr, le foulard à l'école. Comment expliquer ces divergences ? Comment comprendre de tels contrastes ? Si les textes juridiques sont pratiquement les mêmes, comment expliquer qu'ils conduisent à des oppositions si tranchées ? La cause, évidemment, est à rechercher dans le contexte interprétatif, hein, de ces principes. En ce sens que le principe de séparation d'Église et de l'État s'adosse à des représentations, à des valeurs, à des préjugés qui sont profondément différents en France et aux États-Unis. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer en deux points. D'abord, en voyant les conséquences qui en découlent pour le principe de neutralité de l'État, et ensuite sur le droit à la liberté religieuse. Alors, premier point, le principe de neutralité de l'État. Dans un État qui s'affirme fondé sur une séparation du religieux et du politique, il est de règle que les pouvoirs publics soient neutres vis-à-vis des religions, et des religieux et de la religion. Neutre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, neutre ? La neutralité implique certainement l'impartialité. La neutralité implique certainement de ne pas prendre parti dans les querelles religieuses, les bien nommées en français querelles de clocher. De ce point de vue-là, la France et les États-Unis sont évidemment à l'unisson. Mais, et c'est là que la différence commence, est-ce que la neutralité implique l'indifférence ? Aux États-Unis, la réponse est affirmative. En particulier parce qu'à la différence de la France, les pouvoirs publics n'entretiennent pas d'état d'âme vis-à-vis des sectes. La nocivité des sectes sur la société et sur la jeunesse en particulier laisse les pouvoirs publics indifférents. La notion de dérive sectaire n'a aucun sens pour un Américain. Aussi excentriques soient-elles, les sectes sont de vraies religions et toutes les religions sont également traitées. Toutes méritent la même considération, toutes ont une égale dignité, toutes méritent le même respect. Toutes peuvent se réclamer des protections du Premier Amendement. Alors qu'il s'agisse bien sûr des religions traditionnelles, catholicisme, protestantisme, judaïsme, etc., mais de la religion, je prends des exemples tirés de la jurisprudence de la Cour suprême, mais aussi de la religion Santeria, qui pratique les sacrifices d'animaux, tels que poulets, pigeons, canards, cochons d'Inde, moutons, chèvres ou tortues, en leur tranchant la gorge pour les cuire et les manger, ou de la religion d'une tribu indienne qui oblige ses membres à fumer une plante hallucinogène, le peyote, la plante qui émerveille les yeux, comme les Aztèques l'appelaient, pour se purifier au moment des prières. Bien entendu, les adeptes d'une secte ne peuvent pas nuire à autrui en s'abritant derrière leur dogme. Et le droit américain punit, et même sévèrement, les comportements fautifs, voire criminels, des dirigeants de telle secte. Mais c'est toujours l'individu qui est puni et jamais la secte en tant que telle qui est sanctionnée. L'égale considération pour toutes les croyances, quelles qu'elles soient, secte ou religion, d'ailleurs en anglais, la distinction ne peut pas être véritablement faite entre une secte et une religion, est la manifestation la plus claire et parfois la plus déconcertante pour nous Français de l'égalité totale de toutes les religions aux États-Unis. Notez que ce principe est relativement récent. Au XIXe siècle, les religions n'étaient pas égales aux États-Unis. La religion chrétienne était la religion dominante. Aujourd'hui, la religion chrétienne est une religion comme les autres. Elle a été mise au niveau de toutes les autres confessions, elle a été banalisée. Elle ne reçoit aucune considération particulière. Et la société américaine n'est plus la société puritaine qu'elle a pu être autrefois. La société américaine du XXIe siècle est une société multiconfessionnelle, donc multiculturelle, dont le modèle rayonnant s'affirme comme le modèle sociétal du XXIe siècle. Cette évolution est le résultat d'une jurisprudence patiente et continue de la Cour suprême, qui s'est employé à retirer au christianisme tous les privilèges, tous les avantages, tous les usages sociaux qu'il tenait de son statut de religion dominante. La Cour a démantelé le statut de religion, donc de culture dominante, que tenait la religion chrétienne, quand elle a commencé par déclarer inconstitutionnelle la prière à l'école publique. Il était de tradition que les élèves des écoles publiques fassent une prière à confessionnelle vis-à-vis de l'être suprême dans les écoles publiques. Au début des années 60, la Cour a déclaré ce genre de manifestation contraire à la clause de non-établissement et systématiquement, arrêt après arrêt, elle a censuré toutes les manifestations de recueillement, dévotion, méditation, rien de ce genre, rien de ce type de cérémonie n'a trouvé grâce devant ses yeux. La Cour a systématiquement censuré toute forme de recueillement religieux, méditation, quelle que fût la forme qu'elle ait pu prendre, qu'il s'agisse d'une lecture des versets de la Bible, par exemple, de quelques minutes de silence, ou d'une prédication lors d'une cérémonie de distribution des prix. Alors, cette jurisprudence a soulevé des tempêtes de protestations. Plusieurs dizaines d'amendements ont été, amendements constitutionnels, ont été déposés à la Chambre des représentants ou au Sénat pour rétablir la tradition. Aucune n'a abouti. Impassible, la Cour a poursuivi et a approfondi sa jurisprudence de banalisation de la société chrétienne, de la religion chrétienne, notamment en interdisant aux municipalités de financer les crèches pour les célébrations de Noël. Ici aussi avec toutes sortes de subtilités, mais au point de reconnaître la religion chrétienne, au point de dire que la présence d'une crèche dans une cérémonie de Noël à côté du Père Noël, du Père Noël lui-même, de la maison du Père Noël, des reines, de Rudolf, le chef des reines, de clowns, d'un ours, et une malheureuse crèche qui était là et qui irritait certains non-croyants, eh bien la Cour a dit, la crèche est là, mais elle ne porte pas un message chrétien plus qu'autre chose, et donc elle n'est pas contraire à la clause de non-établissement. Notez aussi que c'est cette banalisation de la religion chrétienne qui a permis à la Cour de régler avec élégance le problème de toutes ces manifestations de dévotion que l'on rencontre dans la vie américaine, « In God We Trust », le serment, le chapelain du Congrès, le serment du président sur la Bible, Il y a des arrêts là-dessus. La jurisprudence de la Cour suprême s'est prononcée. Et la Cour a dit, eh bien, d'abord, c'est une tradition historique. Nous avons eu ça depuis 2 siècles, donc ce n'est pas maintenant qu'on va changer. Mais surtout, elle a dit, au fond, le message qui est délivré par ces signes ou même par ce serment du président sur la Bible est vide de tout contenu religieux précis. Tout religieux contenu précis. Alors, à partir des années 1980, cette jurisprudence impitoyable sur la clause de non-établissement a été mise en cause. Je vous l'ai dit, il y a eu des dizaines d'amendements qui ont été proposés au Sénat et à la Chambre des représentants, mais surtout vis-à-vis du financement des écoles publiques, des écoles privées. Parce que la clause de non-établissement donc, a eu pour conséquence d'interdire toute manifestation donc, de religiosité chrétienne dans la vie publique aux États-Unis, mais surtout, et plus encore, elle a eu pour conséquence, dans les années 60, d'amener la Cour à construire une jurisprudence extrêmement stricte, extrêmement rigoureuse, sur l'interdiction de tout financement public des écoles religieuses. La Cour a pris une position vraiment en flèche sur ces questions, en interdisant que le moindre denier public puisse aller à l'école religieuse. Alors, à partir des années 80, cette politique a été remise en cause par les conservateurs pour une raison très simple, qui est moins une raison religieuse qu'une raison purement pratique. La raison est que les écoles privées fonctionnent mieux que les écoles publiques. Et les conservateurs, qui sont des gens très réalistes, voient d'un assez bon œil les politiques qui ont pour conséquence d'encourager ces écoles privées, là où les choses marchent bien, où les élèves sont bien éduqués, plutôt que ces écoles publiques où l'argent est gaspillé. Donc, la jurisprudence de la Cour qui interdit systématiquement tout financement public à l'école privée a commencé par être critiquée. Alors la Cour a trouvé le moyen, la Cour et les hommes politiques, n'est-ce pas, ont trouvé le moyen de s'adapter à cette évolution des mentalités. Aujourd'hui, pour simplifier les choses, l'aide budgétaire directe de l'État, c'est-à-dire le fait pour les deniers publics de passer des caisses de l'État pour aller dans les caisses des écoles privées, religieuses, ça demeure strictement interdit. En revanche, L'aide indirecte qui consiste à donner aux individus, concrètement aux parents d'élèves, à donner un chèque scolaire, a school voucher, aux parents, libre à eux de les utiliser comme ils veulent. Un chèque de 2 000 ou 3 000 dollars qu'ils peuvent donner à l'école publique ou à l'école privée de leur choix. Ça, c'est une politique que la Cour a validé du point de vue constitutionnel et dont on peut même dire qu'elle l'a encouragé. L'idée dans cette affaire, c'est que les fonds publics, n'est-ce pas, pour arriver à justifier cette politique au regard de la clause de non-établissement, la Cour dit ceci, les fonds publics ne vont pas aux écoles privées, aux écoles religieuses. Les fonds publics vont aux individus, de sorte que le financement public de l'école religieuse est en réalité la conséquence d'un choix privé authentique et non pas la conséquence d'une décision d'État. Et la Cour estime que lorsque le financement est le résultat d'un choix libre et volontaire de l'individu, il n'y a absolument rien de contraire au principe de séparation des Églises et de l'État. Si donc, vous le voyez, si donc les fonds publics peuvent aujourd'hui bénéficier aux écoles religieuses aux États-Unis, c'est finalement parce que ce sont les citoyens qui le veulent. Ce sont les citoyens qui le décident. Tant que leur choix est libre, non forcé, non orienté par l'État, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de décider à leur place de ce qu'il faut donner ou ne pas donner aux écoles religieuses. Les choix privés sont toujours supérieurs aux choix publics et la liberté des citoyens doit toujours prévaloir. Alors, c'est politique, notez-le bien, c'est politique qui préfère les choix rationnels de l'individu aux choix jamais innocents, parfois corrompus et certainement toujours intéressés des politiques, des élus. Est aujourd'hui le fer de lance de la politique du gouvernement compassionnel de l'administration Bush. Alors, derrière leurs apparences de retour au monde d'autrefois, au monde de la charité et de la bienfaisance, ne nous y trompons pas. Se cachent en réalité les théories les plus modernes, les théories des law and economics, autrement dit, les théories de l'analyse économique, de la politique et du droit. J'en viens maintenant au deuxième point qui touche la liberté religieuse. Aux États-Unis, la liberté religieuse, comme toutes les autres libertés, est une liberté négative. C'est-à-dire une liberté qui prohibe les discriminations pour fait de religion, pour cause de religion, et rien d'autre. Ce n'est pas une liberté positive, c'est-à-dire une liberté qui appelle des obligations positives de la part de l'État. Et l'obligation d'accommodement raisonnable, auquel on donne un si grand crédit en France, reste très en deçà de la généreuse portée qu'on tend à lui attribuer dans notre pays. D'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, la liberté religieuse est plus qu'une liberté de conscience ou une liberté de culte. C'est une manière pour l'individu de s'affirmer, de s'exprimer, de se poser en tant que sujet, de définir une expérience personnelle de salut et de dépassement de soi. La question est de savoir jusqu'où cette affirmation du sujet peut-elle aller, jusqu'où cette affirmation de la personnalité peut-elle aller. Est-ce que, en particulier, cette revendication à la liberté authentique de l'individu d'être ce qu'il est, est-ce que cette liberté peut aller jusqu'à le dispenser de l'observation des lois? En 1879, la Cour avait refusé qu'un mormon puisse échapper aux sanctions pénales prévues par le droit fédéral en cas de bigamie. Elle avait jugé, et je la cite, « Admettre cela reviendrait à placer les doctrines professées par les religieux au-dessus des lois et à permettre à chaque individu de s'établir sa propre loi, de se faire son propre droit. » Alors, on est resté assez longtemps sur cette politique stricte de la Cour, jusqu'à ce que, à partir des années 60, la Cour suprême adopte une autre attitude et exige des États qu'ils fassent preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis des religions minoritaires. Cette jurisprudence a commencé au début des années 60, très exactement en 1963, dans un arrêt Sherbert, où la Cour a jugé à propos d'une croyante dans la religion des saints du dernier jour, croyante pratiquante qui était au chômage, à qui on avait fait des offres de travail, qui l'obligeait à travailler le samedi et qui répondit « Mais moi, je ne peux pas prendre ce travail parce que je ne peux pas travailler le samedi, ma religion me l'interdit. » Du coup, l'État cesse ses allocations chômage et elle va devant les tribunaux pour obtenir le rétablissement de ses allocations. Et ça va jusque devant la Cour suprême et la Cour suprême lui donne raison. La Cour suprême dit ben dans un cas de ce genre, il faut mettre en balance les intérêts de l'individu, les intérêts du croyant pratiquant et les intérêts de l'État et faire un balancing test et à moins que l'État ne puisse prouver qu'il a un intérêt impérieux, hein, a compelling interest, eh bien, dans ce cas-là, il faut que ce soit, s'il n'y a pas de compelling interest, eh bien, il faut que ce soit la religion de l'individu qui l'emporte. Et cette jurisprudence a été étendue aux Amish. Vous savez, c'est les Amish, ces petites communautés qui vivent une vie encore comme au XVIIIe siècle, qui sont en particulier très nombreux autour de l'État de Pennsylvanie, dans l'État de Pennsylvanie, mais qui ont essaimé dans d'autres États. Et là, l'affaire dont je vais parler concerne les Amish du Wisconsin. Eh bien, dans l'État du Wisconsin, la Cour a admis que des Amish pouvaient déroger, pouvaient être dispensés de se conformer aux lois donc, du Wisconsin sur la scolarité obligatoire et ne pas envoyer leurs enfants obligatoirement à l'école jusqu'à 16 ans, mais les retirer 2 ans avant, conformément à leurs croyances religieuses. En 1990, dans un arrêt Smith, la Cour suprême a décidé de mettre un terme à cette jurisprudence. Il s'agissait en l'espèce d'Américains de descendance indienne qui étaient accoutumés à fumer une plante hallucinogène pour se purifier au moment des prières selon leurs rites ancestraux et qui entendaient bénéficier, qui étaient au chômage, et qui entendaient bénéficier d'allocations sociales, donc d'allocations de chômage, de la part de l'État de l'Oregon. Lequel État de l'Oregon interdisait à des personnes qui avaient été licenciées pour faute, donc fumer de la drogue, de percevoir de telles allocations. Donc le problème était de savoir si le fait demander à fumer de la drogue pour pratiquer sa religion pouvait prévaloir, pouvait l'emporter sur les lois sociales de l'État d'Oregon qui interdisait le versement d'allocations chômage à des individus licenciés pour faute grave. Eh bien, la Cour, dans ce cas-là, a donné raison à l'État d'Oregon. Et elle a jugé, dans un arrêt extrêmement controversé, je vais y revenir, dans cet arrêt Smith, elle a jugé, et je la cite, « Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de présumer invalide pour tout croyant pratiquant chaque loi de police qui ne sert pas à un intérêt public de première grandeur. » Pour les familiers de la Cour suprême, on aura évidemment reconnu là le style sarcastique du juge Antonin Scalia. Au terme de ces péripéties, l'intérêt religieux ne passe pas, ou plutôt ne passe plus, avant l'intérêt public. Sans doute peut-il se voir accorder un traitement bienveillant, mais si tel est le cas, ce sera toujours par l'effet d'un choix politique, c'est-à-dire que concrètement, une loi sera prise en ce sens, et non pas par l'effet d'un commandement de la Constitution. Autrement dit, la Constitution n'oblige ni à accorder des dérogations religieuses aux lois en vigueur, ni à prévoir des accommodements pour faciliter l'exercice des cultes. L'obligation d'accommodement, quand elle existe, ne résulte pas de la Constitution, mais de la loi. Autrement dit, c'est le législateur qui l'accorde librement, ce n'est pas le citoyen qui peut l'exiger. Un fidèle qui est gêné dans l'exercice de son culte par les lois en vigueur ne peut plus imposer une obligation d'accommodement raisonnable au pouvoir public. Et ceci depuis la jurisprudence Smith. Notez, parce que l'opinion française, qui a été très influencée, je crois, sur ces questions-là par le rapport Stasi, n'a pas saisi ce changement de la jurisprudence aux États-Unis et ne connaît pas ce changement de la jurisprudence aux États-Unis, mais il est certain que les Canadiens ont conservé et continue d'entretenir vis-à-vis des religions minoritaires une politique de dérogation aux lois en vigueur et d'accommodement raisonnable qui n'est plus celle des États-Unis, que les États-Unis ont déjà quittée depuis maintenant plus de 15 ans. Alors, je disais que cela ne veut pas dire que un fidèle pratiquant n'a pas le droit à un accommodement raisonnable, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que s'il a droit à cet accommodement raisonnable, ce sera en vertu d'un texte législatif et non pas en vertu du texte constitutionnel. Alors, il existe des lois, et il existe en particulier une grande loi fédérale, le Civil Rights Act de 1964, dont le titre 7 interdit les discriminations raciales, sexistes, etc., mais en particulier les discriminations à l'embauche et sur les lieux de travail pour fait de religion. La loi a été adoptée en 1964. L'agence fédérale qui a été créée pour mettre en œuvre et surveiller l'application de cette loi, qui est la EEOC, c'est-à-dire la commission sur le droit du travail, la commission fédérale sur le droit du travail, a préparé des directives en 1966-67 d'application de cette loi, dans lesquelles elle recommandait aux employeurs d'accorder, quand ils le pouvaient, des accommodements raisonnables à leurs employés. Donc ça, c'était en 66-67. Et le Congrès, quelques années plus tard, le Congrès, en 1972, très satisfait de ces directives, de ces guidelines, les a codifiées dans la loi et les a fait passer, donc leur a donné force de loi, si bien qu'elles sont aujourd'hui, elles font aujourd'hui partie du droit fédéral. Et c'est noté que ces accommodements raisonnables, cette notion d'accommodement raisonnable, a voyagé, a traversé la frontière avec le Canada, et les Canadiens, par la suite, l'ont adopté. Donc, le concept d'accommodement raisonnable, que la commission Stasi nous a dépeint comme étant d'origine canadienne, en réalité, puisque le concept d'accommodement raisonnable commence à naître au Canada à partir des années 80, est en réalité un emprunt de la jurisprudence américaine des années 60, et qui a été donc transposé, et qui a fait sa carrière, qui a connu sa carrière juridique au Canada, dans un contexte évidemment tout à fait différent. Mais les États-Unis, eux, donc, une fois qu'ils ont eu incorporé ce concept d'accommodement raisonnable dans la loi fédérale, eh bien, il s'est produit ce qui se passe toujours chez eux, dans un État fédéral de 50 États fédérés, avec des tribunaux fédéraux, des cours d'État, eh bien, il y a eu une véritable cacophonie entre les cours fédérales et cours d'État pour savoir ce que voulait dire accommodement raisonnable. D'autant plus que accommodement raisonnable était lié aussi à la notion de contrainte excessive, c'est-à-dire que le Congrès disait il faudrait que l'employeur satisfasse les besoins cultuels de ses employés par un accommodement raisonnable, mais sans que cela cause pour autant une contrainte excessive. Donc on avait reasonable accommodation d'un côté, et on avait undue burden de l'autre côté. Et donc, les cours se sont complètement divisés sur ces questions, de sorte qu'il a fallu que la Cour suprême intervienne pour donner une interprétation uniforme de ces termes. Et elle a jugé que l'obligation d'accommodement raisonnable n'exigeait pas, l'obligation d'accommodement raisonnable se limitait pour l'employeur au coût de la mesure la moins chère. C'est-à-dire que l'accommodement raisonnable, c'est ce qui coûte le moins cher à l'employeur qui doit être accordé à l'employé dévot, à l'employé pratiquant. Mais elle a bien précisé aussi dans un autre arrêt, je ne vais pas vous donner tout le détail de la jurisprudence, je vais à l'essentiel, mais elle a aussi bien précisé, donc un, c'est le coût de la mesure la moins chère, celle qui ne coûte pas trop d'argent, et deux, à supposer qu'il y ait plusieurs solutions, l'employeur n'a nullement l'obligation de donner à l'employé la mesure qui a la préférence, qui a sa préférence. Il choisit la mesure qui l'arrange, lui, employeur. Alors, j'ai encore quelques minutes. Alors, je voudrais donc poursuivre sur la notion d'accommodement raisonnable. Nous venons de le voir donc vis-à-vis des employeurs privés, mais maintenant vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, lorsqu'elle est invoquée vis-à-vis des autorités publiques, comme par exemple les lycées, les collèges, les universités, les prisons, la notion d'accommodement raisonnable n'a pas la même portée que dans le secteur privé, évidemment, puisque dès qu'on entre dans l'espace public, tout accommodement raisonnable risque d'entrer en conflit avec la clause de non-établissement. Donc il existe une certaine rigidité dans l'application de l'accommodement raisonnable au secteur privé. Par exemple, il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir, aux États-Unis, une disposition analogue à l'article 2 de la loi de 1905 qui prévoit la possibilité d'inscrire au budget public les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à permettre le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Alors, cela ne veut pas dire que de tels services n'existent pas. Ils peuvent exister, mais lorsqu'ils existent, ce n'est pas à cause d'une obligation de l'État, d'une obligation des pouvoirs publics, mais à raison d'un droit individuel qu'il faut protéger. Or, il faut savoir que les États-Unis n'ont pas, en matière de protection des droits individuels, la même approche que le droit français. Alors, par exemple, pour les prisons, c'est-à-dire qu'on distingue de façon très nette entre les établissements, et par exemple pour les prisons, eh bien, la Cour suprême a jugé que des personnes condamnées à des peines de prison conservaient bien entendu leur droit constitutionnel au libre exercice de leur culte, mais que le contrôle qu'elles exercent sur les mesures prises dans les prisons pour faciliter l'exercice de ces cultes est un contrôle minimum, un contrôle de base rationnelle, autrement dit, à la limite, un contrôle des apparences. On dit qu'elle ne s'ingère pas dans ce que décident les chefs de prison pour accommoder les cultes musulmans, judaïques, etc. etc. Alors, s'agissant maintenant des écoles publiques, la clause de non-établissement que nous avons vue précédemment s'oppose bien évidemment à ce que les pouvoirs publics fassent quoi que ce soit, hein, notamment en termes de deniers publics, fassent quoi que ce soit pour y introduire la religion. En revanche, ils n'ont pas, comme en France, la possibilité d'empêcher qu'elles ne s'y introduisent d'elles-mêmes. L'obligation de neutralité absolue qui pèse sur l'État condamnerait, par hypothèse et par définition, une loi comme la loi française du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école publique. Alors, comment expliquer cela ? Simplement par le fait qu'aux États-Unis, la liberté religieuse est indissociable de la liberté d'expression. Alors, sans doute, admettons que l'État ne peut pas favoriser, encourager ou soutenir l'expression religieuse à l'école, mais il doit laisser cette expression religieuse libre lorsqu'elle est le résultat d'une initiative individuelle. Vous retrouvez ici exactement la même philosophie que pour les school vouchers. Ça ne contredit pas la loi de séparation de l'Église et de l'État, ça n'est pas contraire à la clause de non-établissement, parce que c'est l'effet d'un true private choice. C'est un choix privé authentique, un choix privé véritable. Alors, quand c'est un choix privé individuel, l'État ne peut pas s'y opposer. Un élève peut donc porter un signe religieux, comme il pourrait porter n'importe quel signe, quel autre signe, qui exprime, sans causer de tort à autrui, un choix personnel. Alors, ainsi, par exemple, peut-il porter un brassard noir pour protester contre la guerre du Vietnam. De même, toujours dans le prolongement de la liberté d'expression, de la liberté religieuse vécue comme une liberté d'expression, eh bien, des élèves dans une école publique peuvent choisir de se réunir au sein de l'école pour prier et pour méditer. Vous voyez que le principe de séparation de l'Église et de l'État est appliqué aux États-Unis, finalement, d'une manière beaucoup plus dure, beaucoup plus rude qu'en France. La Cour suprême impose au gouvernement fédéral, comme au gouvernement fédéré, une neutralité sans concession, sans privilège, sans aménité. Toutes les religions, toutes les églises, toutes les sectes sont égales. Aucune n'est préférée. Et c'est à chacune d'elles de vivre par ses propres moyens dans le respect des lois. Quant à la liberté religieuse, elle n'est pas, comme en France, aidée, assistée et encore moins soutenue par les pouvoirs publics. Certes, tout est fait pour qu'elle ne soit pas entravée et qu'elle puisse s'exercer librement, mais nul n'a un droit constitutionnel à un accommodement raisonnable pour exercer son culte, et on est loin des efforts déployés en France et plus généralement en Europe pour satisfaire l'exercice des cultes et le respect des pratiques religieuses. S'il fallait résumer très brièvement les différences entre les deux républiques, on pourrait dire ceci. Alors qu'en France, les religions minoritaires, qui sont non pas opprimées, mais défavorisées, essayent de se hisser au niveau des, ou au rang des religions préférées, bien aux États-Unis, les religions préférées ont perdu toutes leurs préférences. L'égalité de statut et de traitement de toutes les religions, de toutes les églises, de toutes les sectes, est une marque de distinction radicale entre la France et les États-Unis. Notez que cette égalité nominale de toutes les croyances a bien des avantages, parce qu'elle permet à l'État fédéral d'observer à l'État fédéral comme aux États fédérés, mais d'observer vis-à-vis des cultes une politique de neutralité négative sans état d'armes. Et elle leur permet aussi de ne craindre aucune religion tant elle favorise leur multiplication. Le résultat de tout ceci, eh bien, c'est que les religions ne peuvent vraiment prospérer que dans l'espace privé. Et elles y prospèrent d'autant plus qu'elles ne sont pas reconnues dans l'espace public. Aux États-Unis, comme chacun le sait, la religion prospère dans la société et elle est souvent mobilisée, au service d'un intérêt général, d'un intérêt public, auquel l'État ne veut pas, ne peut pas et ne doit pas s'intéresser du chef de son obligation de neutralité. Alors, si la religion imprègne si profondément la société américaine, si la société américaine est, comme on peut le dire et comme on l'a dit, pétrie de religiosité, c'est justement parce que l'État est complètement séparé de la religion, parce qu'il ne s'intéresse pas à elle et que celle-ci se voit privée par la Cour de s'intéresser à lui. En d'autres termes, c'est bien la séparation de l'Église et de l'État qui crée et alimente tous les jours la religiosité de la société américaine, comme Tocqueville l'avait noté dans La démocratie. On sait qu'il recommandait à la France d'adopter la même solution, ce que nous avons fait en 1905, mais comme je le disais en commençant cette présentation, au bout d'un siècle d'exercice pratique, nous sommes arrivés à des résultats complètement différents. Alors, comment expliquer cette différence ? Eh bien, on serait tenté de dire que l'explication est la suivante. Au fond, en France, l'État et la religion sont beaucoup moins séparés qu'on veut bien le dire. Ce n'est pas, notez-le bien, ce n'est pas que la République aide les églises bien plus qu'elles ne le sont aux États-Unis. Mais c'est plus profondément qu'en France. La République n'a pu s'affirmer comme l'association politique de la France moderne, qu'en construisant avec la laïcité, notamment à l'école, une religion civile dont les États-Unis n'ont jamais eu besoin, aucun Américain n'ayant jamais rêvé de revenir à l'époque coloniale et de repasser sous la domination britannique. Les États-Unis n'ont donc pas de religion civile, ou si l'on préfère, de laïcité à la française. Et à dire vrai, une telle notion est aux antipodes de leur culture. La religion civile des Américains, entendez la moralité publique, n'est pas si elle existe dans l'État, mais dans chaque communauté. L'État est neutre aux États-Unis. Il n'a pas de religion, ou plutôt, s'il en a une, c'est celle de ne pas en avoir et de laisser toujours à chaque communauté, à chaque individu, le droit de se former la sienne. Je vous remercie.
C'était la juriste Elisabeth Zoller, professeure à l'Université Paris II Panthéon-Assas et auteure d'un ouvrage sur la conception américaine de la laïcité. Elisabeth Zoller s'exprimait lors du troisième colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques sur la loi 1905. C'était le 20 septembre 2005 à l'Institut de France. Après les États-Unis, voici un autre point de vue, peut-être plus proche de nous, du moins géographiquement, la Belgique. Sur le fond, les relations entre le gouvernement belge et les églises sont très différentes de celles en France. Voici les explications de Francis Delperré, correspondant de l'Académie, sénateur et député de la région de Bruxelles, professeur à la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain et directeur du Centre d'études constitutionnelles et administratives, toujours lors de ce colloque sur le centenaire de la loi 1905, particulièrement consacré aux comparaisons internationales de la laïcité à la française. Voici donc Francis Delperré.
Monsieur le Président, mes chers confrères, mesdames, messieurs, curieux pays que le mien et curieux régime cultuel que celui qui prévaut en Belgique. Je dis que c'est un régime singulier puisque le royaume de Belgique n'a pas conclu de concordat avec le Saint-Siège. Je dirais que de ce point de vue-là, l'État joue clairement, nettement, la carte de la séparation. Mais il n'empêche que chaque jour, le même État applique des dispositions, et je dis bien des dispositions, pas les dispositions, des dispositions du concordat de l'an 9. Et mieux que cela, la Belgique, on vient de le rappeler, va également protéger et financer certains cultes, les cultes qu'elle reconnaît, et à ce moment-là, la Belgique joue la carte de la collaboration. Alors, séparation et collaboration. Avec cette question, comment est-il possible de concilier l'un et l'autre? La réponse à cette question, je crois qu'il faut la chercher essentiellement dans l'histoire. La Belgique est née il y a 175 ans, presque jour pour jour. Nous faisons notre révolution en septembre 1830, le 26 septembre, très, très exactement, et en moins de 6 semaines, nous rédigeons une constitution qui va d'ailleurs faire le tour de l'Europe. Et cette constitution présente une originalité, elle est rédigée donc le 7 février 1831, cette constitution proclame d'abord le principe de libre organisation des églises, et ensuite le principe de libre organisation des enseignements. Les deux principes sont importants parce qu'ils permettent à l'Église catholique d'apporter son soutien à la nouvelle Constitution, et cela malgré les objections particulièrement vives de Rome, qui trouve que la Constitution belge est vraiment trop libérale, mais le primat de Belgique joue un rôle décisif à ce moment-là pour favoriser ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme d'acculturation politique. Cette constitution, permettez-moi de le relever, contient aussi une disposition un peu plus technique, c'est l'article 138, et cet article, que dit-il? Il dit, à dater, à compter du jour où la constitution sera exécutoire, c'est-à-dire à partir du 7 février 1831, toutes les lois, décrets et arrêtés, règlements, autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. Abrogés. Ça, c'est vraiment la guillotine à la Belge, en tout cas pour les textes juridiques. Et un ensemble de textes qui remontent à l'époque espagnole, à l'époque autrichienne, à l'époque française, à l'époque hollandaise, disparaissent d'un coup sec et sont privés de toute existence juridique. Alors, il y a tout de même un certain nombre de textes qui survivent à cette opération d'abrogation express et de nettoyage constitutionnel. Le code civil, par exemple, est de cela. Le code civil, c'est le code des Français, mais c'est aussi le code des Belges, encore aujourd'hui. Et nous avons fêté, il y a un an, le bicentenaire du code civil, puisque c'est aussi le nôtre. Alors, le concordat, qu'est-ce qu'on va faire avec le concordat en 1831? Pour l'essentiel, le concordat est abrogé. Et je crois que personne ne peut s'en étonner. L'investiture des évêques par l'autorité publique, c'est évidemment contraire au principe de l'indépendance des églises. Le serment d'obéissance et de fidélité des ministres du culte au gouvernement établi, c'est contradictoire avec le principe d'indépendance des églises. Et voilà des dispositions qui disparaissent sans coup férir. Mais il y a quelques dispositions concordataires qui vont néanmoins subsister. Par exemple, celles qui sont relatives aux administrations chargées de l'entretien des temples, les fabriques d'églises, les consistoires. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans les recueils de codes administratifs, voilà, j'en ai un sous les yeux, eh bien, on voit reproduire certains articles de la Convention du 26 mai Sidor en 9, mais aussi des dispositions du décret du 5 mai 1806 relatif au culte protestant, du décret du 18 février 1809 relatif aux congrégations des maisons hospitalières de femmes et du décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises. Tout ça fait partie des textes administratifs qui, pour une part, ont encore cours en Belgique. Alors ceci m'amène sans doute à poser deux questions simples. Quels sont d'abord les traits essentiels de ce régime hybride, à la fois de séparation et de collaboration? Et deuxième question, quels sont les problèmes actuels, contemporains, que ce régime hybride peut susciter? Alors d'abord, le régime hybride en vigueur depuis 175 ans. L'article 19 de la Constitution belge le proclame d'une manière tout à fait simple et nette. La liberté des cultes, c'est bien notre sujet, la liberté des cultes, celle de leur exercice public, Monsieur le Président, l'exercice public du culte, est garantie. Comment se montrer plus libéral? Et donc, catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, animistes, peu importe, tous se voient reconnaître d'entrée de jeu le droit de professer leur foi, de pratiquer leur religion, d'exprimer publiquement leur appartenance à une église ou à un mouvement déterminé. Office, funérailles, procession, pèlerinage, y compris sur la voie publique, mais voilà, un ensemble de manifestations extérieures du culte que la Constitution belge accrédite de la manière la plus officielle et la plus générale qui soit. Le principe est tout à fait général. Oh, il y a les exceptions classiques. Il y a cette exception qui veut que l'exercice de la liberté des cultes, pas plus d'ailleurs que l'exercice d'une autre liberté, ne peut évidemment compromettre l'ordre public. Le même exercice, deuxième exception, ne peut pas évidemment être constitutif d'infraction. La pratique d'une religion ne justifie pas, par exemple, la polygamie. Et puis trois, ça c'est des dispositions constitutionnelles, expressent le mariage civil doit toujours précéder la bénédiction nuptiale. Ce qui va poser, je le dis en passant, un problème particulièrement délicat en 1941, lorsque le roi des Belges, qui est Léopold III, se marie religieusement devant le cardinal primat de Belgique avant d'aller devant l'officier de l'état civil. Ce sera un scandale constitutionnel qui va conduire 10 ans plus tard, pas uniquement pour cela, mais c'est un élément du contentieux qui va conduire 10 ans plus tard à son abdication. Je dois reconnaître que la mise en œuvre du principe de liberté des cultes, les réserves que je viens de rappeler, ce système n'a pas manqué de susciter quelques difficultés pratiques. Je dirais presque qu'avec le recul du temps, ces difficultés prêtent à sourire. Bon, je me contente de les épingler. Un curé mélomane peut-il jouer du carillon à toutes les heures de la journée? Un Christ en croix peut-il décorer une salle de cour d'assises? Les dimanches et les jours fériés ne célèbrent-ils pas les fêtes d'une religion déterminée?
Les autorités publiques peuvent-elles participer en cette qualité à un tédéum? Bon, voilà les questions qui émaillent, je dirais, durant le XIXe siècle et une partie du XXe, la vie constitutionnelle du pays. Tout cela alimente des querelles à la Don Camillo, mais il faut dire aussi que ce sont des questions qui peuvent recevoir des solutions raisonnables, surtout dans une contrée un petit peu plus nordique. Pour ne prendre qu'un exemple tout à fait récent, le ministre de la Justice vient de décider qu'une descente de croix due à Rubens et qui ornait la salle de la cour d'assises de la ville de Mons, eh bien, cette descente de croix serait masquée par une tenture lorsque la cour est en session et que, par contre, les tentures seraient ouvertes et, par conséquent, la descente de croix serait dévoilée entre les audiences. Tant pis pour l'accusé s'il est amateur d'art flamand. Beaucoup plus important, la liberté des cultes emporte la liberté d'organisation des églises. Et pour ceux qui n'auraient pas compris la portée de la règle, il est encore établi que l'État ne saurait d'aucune manière intervenir dans l'organisation et dans le fonctionnement des églises. Voilà donc proclamé un peu plus clairement la règle de l'indépendance, la règle de la séparation, si vous préférez, des églises et de l'État, mais, M. Messner l'a rappelé à l'instant, ce régime cultuel est compensé par un système d'aide de l'État, non pas au culte, mais à certains cultes, les cultes reconnus. Et voilà donc certaines religions, certaines églises qui se voient reconnaître une place prééminente. Le culte catholique, le culte protestant, le culte anglican, le culte israélite, le culte islamique et le culte orthodoxe. Sous quelle forme l'aide est-elle procurée? Elle est procurée selon le système, on vient de le dire, des traitements qui sont payés aux ministres des cultes, traitements et pensions versées par l'État, par le biais du ministère de la Justice, pour les ministres des cultes reconnus. Et donc, je me permets d'y insister, parce que c'est un élément important du débat, en Belgique, si vous me permettez cette expression, les cultes ne sont pas financés. Les cultes ne reçoivent pas une dotation de fonctionnement. Les cultes ne reçoivent pas une allocation ou une subvention. Les ministres des cultes, c'est-à-dire pris individuellement, chaque ministre du culte, le rabbin, le pope, le curé, etc., chaque ministre du culte reçoit, j'allais dire pour lui, un traitement et une pension. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour le reste, le régime des fabriques d'église conduit également à assurer l'entretien des édifices religieux. Voilà le système tel qu'il existe à l'heure actuelle. Ce système, je dois bien le dire, et ce sera l'objet de ma deuxième réflexion, fait l'objet d'un certain nombre de controverses. Quelle est, en d'autres termes, la valeur de ce régime cultuel? Je crois qu'il faut en recenser les mérites, et il faut aussi peut-être souligner les défauts de ce régime, tant il est vrai qu'il est à nouveau au cœur de controverses politiques importantes, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'État fédéral ou que ce soit au niveau de ces régions. Les mérites. Je crois que le mérite essentiel du régime qui a été mis en place depuis 1831, c'est d'abord d'assurer une pacification des esprits. Il n'y a pas de guerre de religion, pour reprendre l'expression de notre président. Il y a des moyens financiers mis à la disposition des différents cultes reconnus. Les mécanismes ont fait leur preuve. Il y a manifestement pacification des esprits. C'est tellement vrai que d'autres cultes non reconnus, et le bouddhisme est actuellement le premier à revendiquer un statut à cet égard, d'autres cultes réclament le même financement pour les ministres du culte en question. C'est tellement vrai aussi que la Constitution belge a été modifiée il y a 10 ans pour organiser le même régime de financement, le même régime d'agrément, non plus pour des églises, mais pour des organisations de caractère idéologique ou philosophique, se réclamant d'une morale non confessionnelle, et donc ce qu'on appelle les conseillers laïcs, les conseillers qui relèvent d'associations laïques, reçoivent eux aussi un traitement et une pension au même titre que les ministres des cultes. Je crois que le régime tel qu'il est en vigueur, avec le financement des ministres des cultes ou de ceux qui y sont assimilés, a aussi un mérite, c'est qu'il préserve la liberté de ceux qui apportent dans le concret une assistance morale et religieuse à leurs semblables. Il n'y a donc pas de financement global avec une redistribution, Dieu sait selon quels critères, à des activités ou à des personnes. Non, il y a un versement direct dans la poche, si vous me permettez cette expression, du ministre du culte du financement qui est réalisé. Les difficultés. Je voudrais simplement mentionner trois difficultés qui concernent les cultes reconnus anciennement ou plus récemment et qui concernent aussi les cultes qui ne sont pas reconnus mais qui souhaiteraient l'être. Trois remarques, si vous le voulez. Première remarque, pour dire que les cultes traditionnellement reconnus sont en déclin et que la pratique religieuse, sous la forme, par exemple, de la messe dominicale, est en chute libre. Question, faut-il les pénaliser? Ou faut-il identifier d'autres critères de financement? Comment appliquer, en d'autres termes, les règles d'égalité, les règles de proportionnalité? Comment éviter les discriminations? Comment assurer un régime égalitaire pour les religions reconnues. L'on est enclin aujourd'hui à considérer que la pratique sacramentelle n'est pas le seul critère à prendre en considération, mais que d'autres services rendus à la population, rendus aux citoyens du pays, peuvent aussi être des éléments à prendre en compte. Je pense par exemple visite à des malades, je pense à l'assistance spirituelle. Bon, ça ne se traduit pas nécessairement dans des sacrements qui sont dispensés, mais qui devraient être pris en considération pour savoir quelles sont finalement les tâches qui sont couvertes et quelles sont par conséquent les rémunérations qui sont méritées. Deuxième difficulté, deuxième problème, il concerne les cultes reconnus récemment. Et le problème touche ici les musulmans. Les musulmans occupent une place grandissante dans la société belge, mais ils ne sont pas organisés de la même manière que les religions qui avaient été reconnues jusqu'à présent. Alors, la question se pose de savoir est-ce que l'État peut entrer dans le détail de l'organisation des musulmans de Belgique? Est-ce qu'il peut fixer des règles d'organisation? Est-ce qu'il peut fixer des règles de fonctionnement sans toucher à l'indépendance constitutionnelle des cultes? Est-ce que, c'est la question qui a été débattue il y a moins de 2 mois en Belgique devant le Sénat, est-ce que le pouvoir exécutif, le gouvernement, peut notamment se reconnaître le droit d'intervenir dans le processus d'élection des organes représentant les musulmans de Belgique, en triant les électeurs, en triant les candidats, en triant éventuellement les élus, en considérant que ce ne sont pas de bons musulmans, que ce ne sont pas de bons Belges. Question délicate, je signale que le problème est actuellement pendant devant la Cour d'arbitrage, c'est-à-dire devant le juge constitutionnel, qui, à la fin de ce mois, notre colloque était un peu trop prématuré de ce point de vue-là, j'attendais un arrêt pour hier, mais l'arrêt ne sera rendu que dans 10 jours. La question est pendante et je crois que, n'est pas à préjuger de ce que dira juge constitutionnel, mais je suis enclin à croire qu'il va mettre en évidence le principe de l'indépendance dans l'organisation des associations culturelles. Troisième remarque, d'autres cultes encore aspirent à la reconnaissance. Et là, la question se pose de savoir comment séparer le bon grain de l'ivraie. Comment distinguer les religions qui méritent d'être reconnues et les sectes, par exemple, dont les comportements appelleraient au contraire une réprobation, peut-être même une répression. La Chambre des représentants, première chambre donc du Parlement belge, a ouvert sur ce sujet une enquête parlementaire sur les sectes. Elle a entendu des témoins, elle s'est livrée à des investigations, elle a consulté un ensemble de documents, notamment des documents financiers. Le tout a été reproduit dans un document parlementaire. Mal lui en a pris parce qu'une secte ainsi dénoncée, l'Église universelle du Royaume de Dieu, s'est adressée aux tribunaux. Et s'est adressée en particulier à la Cour d'appel de Bruxelles, qui vient de rendre un arrêt ce 28 juin 2005, disant que, manifestement, le Parlement n'a pas bien fait son enquête, qu'il n'a pas interrogé tous les témoins possibles, qu'il y avait une faute ou des négligences dans le travail de la commission d'enquête. Et la Cour d'appel de Bruxelles, passant outre au principe de l'irresponsabilité parlementaire, qui est un des dogmes de notre système constitutionnel, elle dit ben, seuls les parlementaires sont irresponsables, mais le Parlement, lui, n'est pas irresponsable, et l'État belge est condamné à payer 1 euro symbolique de réparation à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le problème est actuellement devant la Cour de cassation. Et j'espère que la Cour de cassation mettra bon ordre dans ce dossier et rappellera tout de même aussi les prérogatives du Parlement. C'est le sénateur qui parle dans ce domaine. Monsieur le Président, est-ce que vous me permettrez de terminer sur un ton peut-être un peu plus anecdotique? Il n'y a pas de roi de Belgique. Il n'y a de roi que des Belges. Ça, c'est une vieille tradition orléaniste. Mais 1830... c'était aussi le roi des Français. Le premier roi des Belges, c'était Léopold de Saxe-Cobourg, un prince allemand qui était de confession luthérienne. Il avait épousé en première noce une princesse anglaise, Charlotte, et il était devenu d'ailleurs l'oncle de la reine Victoria. Il avait donc embrassé très vite la religion anglicane. Le veuf, qui était Léopold de Saxe-Cobourg, refuse la couronne de Grèce, peut-être est-il devenu orthodoxe, mais il prend la couronne de Belgique et il embrasse par conséquent la religion catholique. J'ajoute que ce prince et que ce roi ne cachaient pas ses appartenances franc-maçonnes, des détails architecturaux du palais de Bruxelles en témoignent abondamment. Au fond, j'ai l'impression que ce roi éclectique résumait en sa personne le pluralisme, comme on dit aujourd'hui, de la société belge, y compris sur le plan religieux. Bruxelles vaut bien une messe, aurait-il pu dire, et même, parce que c'est ça l'originalité du personnage, Bruxelles vaut même plusieurs messes à la fois. Bref, un curieux roi pour un curieux pays, mais depuis lors, et c'est peut-être l'essentiel, cela fonctionne. Merci.
Les relations entre le gouvernement et les églises en Belgique, tel était le thème de cette intervention. Francis Delperré est sénateur et député en Belgique, professeur de droit à l'Université catholique de Louvain. Cette allocution a été prononcée lors du troisième colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion du centenaire de la loi 1905. Ce colloque se proposait en particulier de comparer la laïcité telle qu'elle est vue et appliquée en France et les régimes de séparation des églises et de l'État dans d'autres pays. La laïcité française, singularité ou modèle? Nous avions donc sélectionné parmi les 27 interventions du colloque 3 qui traitaient particulièrement des situations à l'étranger, la laïcité française vue d'ailleurs, la laïcité à l'américaine et enfin la situation en Belgique. J'espère que l'écoute de ces interventions était agréable et instructive. Pour la semaine prochaine, nous avons sélectionné les interventions lors de ce colloque qui traite de l'islam, de sa place dans la laïcité française et européenne, avec les allocutions de Nicolas Sarkozy, ministre français de l'Intérieur, Fouad Alaoui, secrétaire général de l'UOIF, et Alain Grèche, rédacteur en chef du Monde diplomatique. Bonne journée à l'écoute de Canal Académie.